Mes chers amis, connaissez-vous le miracle eucharistique d'Amsterdam? Nous sommes en 1345. À cette époque, Amsterdam n'était encore qu'un petit village de pêcheurs. Ce village ne comportait que quelques maisons, une église et un monastère. Le miracle eucharistique du 15 mars 1345 fut le point de départ du développement économique d'Amsterdam. Mais de quoi s'agit-il? Ce jour-là, le 15 mars 1345, un pêcheur était mourant dans sa maison de la rue Kalverstraat à Amsterdam. Un prêtre vint le voir pour lui administrer le sacrement de l'extrême-onction et lui donner la communion. Malheureusement, peu de temps après, le mourant eut un violent malaise. Il fut violemment secoué et il vomit tout le contenu de son estomac, y compris l'hostie encore intacte. Le prêtre étant déjà parti, la femme du mourant jeta la vomissure au feu. Soudain, elle réalisa avec horreur qu'elle avait également jeté l'hostie dans le feu. Mais il était trop tard, elle ne put la récupérer. Le lendemain matin, tandis qu'elle ranimait le feu qui ne s'était pas complètement éteint pendant la nuit, la femme vit soudain l'hostie flotter au-dessus des flammes. Elle était encore toute fraîche. Vite, la femme saisit l'hostie et la déposa sur un linge propre qu'elle rangea dans un coffret. Puis elle se hâta de faire venir le prêtre, qui prit l'hostie et la porta discrètement jusqu'au tabernacle de l'église Saint-Nicolas, l'actuel Oudekerk. Le prêtre, en effet, ne dit rien à personne, car il pensait qu'il valait mieux ne pas parler de la chose à ses paroissiens. Mais le lendemain matin, la femme trouva l'hostie de nouveau dans le coffret. Le prêtre, de son côté, ne retrouva pas l'hostie dans le tabernacle. Très surpris, il retira une seconde fois l'hostie du coffret et retourna à l'église Saint-Nicolas comme la veille. Le troisième jour, même chose. L'hostie avait encore rejoint son coffret. Cette fois, le prêtre informa plusieurs membres du clergé et tous pensèrent que, incontestablement, l'hostie, c'est-à-dire Jésus, voulait que le grand public connaisse le miracle pour réveiller sa foi un peu endormie. Notons aussi que le pêcheur, qui avait été mourant, retrouva une excellente santé. En conséquence, les paroissiens venaient nombreux visiter la maison de l'ancien malade. Une grande procession fut organisée, et avec tous les honneurs qui lui étaient dus, l'hostie fut ramenée solennellement dans l'église Saint-Nicolas où elle demeura. Naturellement, l'évêque d'Utrecht fut informé. L'année suivante, en 1346, après une sérieuse enquête, il reconnut le miracle. Dès lors, la solennité du Saint-Sacrement devint non seulement une fête liturgique, mais également une fête pour toute la ville. Chaque année, on renouvelait les processions solennelles et la maison où avait eu lieu le miracle fut transformée en chapelle. Les pèlerins affluaient de plus en plus et même l'empereur Maximilien d'Autriche, malade, qui vécut de 1459 à 1519, vint à Amsterdam pour demander la grâce de sa guérison. Il fut exaucé et en reconnaissance, il accorda à la ville d'Amsterdam le privilège d'ajouter la couronne impériale à ses armoiries. Je dois maintenant ajouter qu'il y eut, en 1452, un autre miracle eucharistique à Amsterdam, qui était déjà devenu une grande ville. Le 24 mai 1452, la ville d'Amsterdam fut presque entièrement détruite par un incendie. Quand l'ancienne maison du pêcheur, devenue chapelle du Saint-Sacrement, commença à prendre feu, quelques paroissiens essayèrent de sauver l'hostie miraculeuse. Malgré tous leurs efforts, ils ne purent ouvrir le tabernacle où se trouvait l'hostie, placée sur un ostensoir. Lorsque le toit menaça de tomber, ils durent tous s'enfuir. Leurs efforts avaient donc été vains. Tout brûla entièrement. Le lendemain, des paroissiens revinrent pour fouiller les cendres, espérant trouver les restes de leur précieuse hostie. Et ils trouvèrent l'ostensoir intact, ainsi que l'hostie. Une fois encore, l'hostie consacrée avait été sauvée du feu, et cela au même endroit, là où avait été construite une chapelle sur la maison d'un pêcheur. Plus tard, une nouvelle chapelle fut construite, et c'est alors que serait venu l'empereur Maximilien d'Autriche. Les pèlerinages continuaient. Mais les jours se suivent et ne se ressemblent pas, cela nous le savons. Ainsi, en 1578, la procession annuelle fut interdite par la municipalité protestante d'Amsterdam. Comme les catholiques ne pouvaient plus se rendre à la chapelle du miracle, ils s'organisèrent autrement. Les processions continuèrent, mais en secret et dans le plus grand silence. Ce fut l'origine de la marche silencieuse. Remise à l'ordre du jour et autorisée en 1881, ce qui était devenu la marche silencieuse que tous les habitants d'Amsterdam connaissaient, fut enfin autorisé officiellement. Depuis, la procession a lieu le soir du premier samedi suivant le 15 mars. De nos jours, chaque année, environ 10 000 personnes viennent de toutes les régions des Pays-Bas. La procession prie, toujours en silence, en suivant le chemin historique de la toute première procession. Enfin, une procession solennelle eut lieu dans les rues d'Amsterdam lors de la fête du Corpus Domini, la fête Dieu, le 13 juin 2004 pour la première fois depuis 1578. Pourtant, malgré les très nombreuses protestations, la chapelle du Miracle fut démolie en 1908 et c'est dans la chapelle du Béguinage que l'on commémore le miracle d'Amsterdam. Pour être complète, je dois ajouter qu'il existe un lien important entre le miracle eucharistique d'Amsterdam de 1345 et les messages de la Dame de tous les peuples dont la première apparition à Ida Perdermann eut lieu le 25 mars 1945, soit 600 ans plus tard. La deuxième apparition du 21 avril 1945 de la Dame de tous les peuples se passa en plusieurs épisodes. Je vous lis le message. Ida se trouve d'abord dans une église et elle voit la dame au milieu des fleurs. Des milliers de gens sont agenouillés devant elle. Puis la dame regarde Ida et dit « Vous ne garderez la paix, vous les hommes, que si vous croyez en lui. Diffusez cela. » La dame dépose alors un crucifix dans la main d'Ida. Puis la dame conduit Ida dehors et cette dernière voit un vide sans fin où se trouvent de nombreuses têtes humaines. La dame dit encore « Il y a des personnes importantes qui sont en train de projeter quelque chose. » Ensuite, dans une autre image, ce sont des gens en fuite. C'est l'exode des Juifs fuyant l'Égypte. Et tout en montrant cet exode, la dame dit « Mais Israël se relèvera. » Pourtant, la dame ajoute « Mais Yahvé a honte de son peuple. » Et Ida voit Moïse brisant les tables de la loi. Ida est de nouveau dans l'église, devant le tabernacle, et voit passer une procession à l'extérieur de l'église. La dame dit « C'est la procession du miracle d'Amsterdam !» Et tout disparaît. Dans son 45e message, le 20 mars 1953, la dame de tous les peuples dira « C'est Amsterdam que j'ai choisi pour être la ville de la dame de tous les peuples. C'est aussi la ville du Saint-Sacrement. » La Vierge Marie avait donc intentionnellement choisi de s'adresser au peuple à partir d'une ville eucharistique. Pour des raisons évidentes, je m'abstiens de tout commentaire. Mais si vous voulez en savoir davantage sur la Dame de tous les peuples, allez voir le site novl.evangelisation.free.fr. Dans la rubrique Sanctuaire Mario, vous trouverez la Dame de tous les peuples.